Pierre-Étienne Joie. Infotrafic RTS.
Quelle que soit votre direction, soyez très prudent si vous circulez sur l'axe Boncourt de Léman, car des piétons sont signalés dans le tunnel du Montéry. La Suisse doit renforcer ses liens économiques avec les États-Unis et trouver une solution aux droits de douane imposés par Washington. Le Conseil fédéral vient d'approuver le projet d'un mandat de négociation avec les États-Unis. Une consultation est ouverte. Nouveau gros éboulement du côté de Blatten. Une coulée s'est produite à 4 heures. Ce matin, un amas de boue, de pierre et de glace et par accumulation, les matériaux dépassant désormais le paravalanche qui surplombe le village ovalaisan est toujours indemne. Des millions de mètres cubes, mais d'autres éboulements vont encore suivre et la population reste loin de chez elle pour le moment. Le Conseil d'État vient d'ailleurs de déclarer la situation particulière, une mesure qui doit permettre de réagir le plus rapidement possible. Rebondissement dans l'affaire Enzoï, tué par un policier en 2021 à Morges. Le tribunal cantonal vaudois estime qu'il ne doit pas être classé, comme l'avait décidé le ministère public fin novembre. Le parquet doit donc rouvrir l'enquête et un procès aura lieu tôt ou tard. Le drame s'était déroulé le 30 août 2021 à la gare de Morges. Le Zurichois de 37 ans, d'origine sud-africaine, était tombé sous les balles d'un agent sur un des quais. Selon l'enquête, la victime, qui souffrait de problèmes psychologiques, aurait menacé les policiers avec un couteau. L'homme était décédé sur place. Une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ne serait possible qu'après des accords concrets entre la Russie et l'Ukraine, a prévenu le Kremlin. Plutôt, Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre trilatérale avec les présidents américains et russes pour faire avancer les discussions de paix. L'Ukraine a par ailleurs lancé pendant la nuit une importante attaque de drones contre la Russie. L'armée israélienne a démenti avoir ouvert le feu sur la foule hier en marge d'une distribution d'aide humanitaire. L'opération est assurée par une société privée dans le sud de la bande de Gaza après avoir été mise en cause par un responsable onusien. Celui-ci a fait état de nombreux blessés par balles. Israël a bombardé ce matin l'aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen, en main des rebelles Houthis. Une manière de se venger des tirs de missiles hier par ces rebelles qui soudainement soutiennent la cause palestinienne. Christine Lagarde aurait envisagé de quitter la Banque Centrale Européenne pour prendre la présidence du WEF, le Forum Économique Mondial à Genève. La Française, qui est présidente de l'institution, serait partie avant la fin de son mandat qui court jusqu'à octobre 2027 pour rejoindre le Forum. C'est le fondateur du WEF, Klaus Schwab, qui l'affirme dans le Financial Times. La BCE assure ce matin que sa présidente terminera son mandat. À Genève, le festival de musique et d'art sacré Agapé n'aura pas lieu comme prévu dès aujourd'hui. L'État de Genève l'a annulé à la dernière minute. Le canton a appris qu'un homme exclu du clergé pour abus sexuels était impliqué dans l'organisation. La météo, dégradation nuageuse depuis le nord-ouest, suivie de quelques précipitations peu à peu sur tout le nord des Alpes et le Valais, accalmie dans la nuit, maximum 19 degrés, 22 en Valais. Demain, jeudi de l'Ascension, globalement bien ensoleillé, à signaler encore quelques nuages résiduels tout au nord et en direction de la Suisse alémanique, maximum 23 degrés. Et vendredi et samedi, ensoleillé, maximum 28 à 30 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Suite à la panne d'un véhicule sur l'autoroute Vevey-Martigny, on signale un bouchon entre l'échangeur de la Vère et Villeneuve en direction de Martigny. 30 minutes supplémentaires à prévoir sur ce tronçon. Et sur l'autoroute Lucerne-Chiasso, un embouteillage 7 km entre Amsteg et l'entrée nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin. Une heure d'attente environ. Les romans et plus généralement les voyageurs à destination de l'Italie sont invités à emprunter l'A9 et l'axe du Grand Saint-Bernard ou le col du Simplon.
Chacun pour tous, la minute de solidarité avec Jean-Marc Richard.
Pour soutenir au Cameroun, à travers une association ici en Suisse, l'ouverture de salles de classe dans une région parmi les plus défavorisées de ce pays, nous recherchons toujours du matériel, mais je voulais vous remercier, vous avez été plus d'une trentaine qui nous ont appelés pour ce projet. Il manque du matériel scolaire, crayons, marqueurs, cahiers, stylos, rames de papier, etc. Des instruments de musique, des livres de lecture niveau primaire et des jeux d'intérieur et d'extérieur, la liste complète sur rts.ch/chacun pour tous. Un seul numéro de téléphone pour le matériel ou pour vous renseigner, 058-236-1600, 058-236-1600. Merci.
c'est un moment où je me sens bien, où je suis un moment de partage un peu avec ma mère, on s'amuse, on rigole, on a le chien à côté qui se balade, enfin, c'est des moments où on se focalise plus sur le chien et du coup, bah, ça permet d'oublier un peu les soucis pendant un petit moment. C'est ma petite pause de la semaine.
Vacarme. Vacarme.
Tel maître, tel chien.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
Certains chiens ont des facultés étonnantes pour soigner l'âme et le corps. Une capacité à ressentir, à calmer, à apaiser. Pas étonnant donc que les hôpitaux fassent de plus en plus souvent appel à eux pour faciliter la guérison dans le cadre de dépression, de troubles anxieux ou de troubles de l'apprentissage par exemple. Ça s'appelle les TAA, thérapie assistée par animal. Dans le canton de Vaud, le CHUV vient d'introduire Jam, un chien thérapeute, au sein de l'unité ABC à l'hôpital de Saint-Loup. ABC, c'est le Centre Vaudois Anorexie Boulimie. C'est là que sont hospitalisés des patientes et des patients qui souffrent de troubles sévères du comportement alimentaire. Ce jour-là, le groupe va se promener en forêt, accompagné par l'infirmière cadre Hélène Di Santos et la psychologue Mélanie Lanz.
Je vais carrément caresser comme ça quand tu fais ça. Hein.
Allez, viens. Ouais, viens, viens, on y va. Allez.
Est-ce que quelqu'un a envie de tenir la laisse?
Venez. C'est OK.
Du flair pour guérir. Reportage Cécile During. Réalisation Rodolphe Bouchot.
Donc c'est une première.
Oui.
Très bien. Le fait que les patients tiennent, on leur propose des fois de tenir la laisse quand on se déplace. C'est aussi une manière de commencer de créer le lien spécifique avec Jam. Ça renforce aussi des fois la confiance dans les paroles qu'elles vont pouvoir avoir plus tard. Jam, c'est un Golden Retriever de bientôt 3 ans, dans quelques semaines. Dans 2 semaines, en fait, pour être précise.
Et ça fait combien de temps qu'il est chien thérapeute ?
Il a été officiellement accrédité le 9 novembre 2024. Mais il a reçu, pour arriver à cette accréditation, toute une formation sur 15 mois à peu près, plus des mois avec moi pour que notre binôme soit formé aussi accrédité. Il est arrivé avec moi, chez moi, en septembre. Donc on a eu 3 mois de phase pilote, où il avait une chabraque jaune avec un L. Donc ça fait plusieurs mois maintenant qu'il fonctionne comme chien de thérapie clairement reconnu. Donc on est dans la forêt des Bois de Saint-Loup et puis le Nozon coule là. C'est vrai que c'est un cadre assez idyllique pour travailler en extérieur. On est à peu près à 3 minutes de marche de l'hôpital, donc on a beaucoup de chance en fait d'avoir cet environnement de travail.
Allez, tiens.
Je propose qu'on se mette en rond, comme ça on se voit toutes. On est un groupe exclusivement féminin aujourd'hui. Et Jam, viens. Jam, ok. Voilà.
Ok, donc ce qu'on s'était dit en début de groupe, c'est qu'on essayait d'aller rechercher un petit souvenir d'un lieu, d'un moment où on a partagé un temps avec un animal.
Qui souhaite commencer? Vous pouvez appeler Jam, qui vient près de vous pour parler si c'est souhaitable. Il suffit que vous l'appeliez, puis il est à vos côtés pour pouvoir échanger.
Moi, comme souvenir, ça m'a fait penser à quand je m'occupais de 3 chevaux qui est à côté de chez moi. Et je m'étais particulièrement attachée à une vieille jument de 26 ans. Bah, maintenant que je suis ici, elle me manque beaucoup. Ça me fait tellement du bien quand je suis avec les chevaux ou même avec tous les animaux que j'ai chez moi que je me dis bah, en fait, il faut que j'essaye d'avoir des congés le plus possible pour pouvoir les revoir.
Ça veut dire que vous nous dites, c'est que le lien, ces liens privilégiés avec les animaux que vous avez, ben, ça ne devient pas que un manque qui fait souffrir, mais que c'est un moteur. C'est un moteur aussi dans votre guérison, pour aller mieux, pour avoir des congés, mais pour sortir de l'hôpital, du coup.
C'est vrai que j'ai vraiment bien envie de les revoir tous. Donc, Je vais essayer de tout faire pour pouvoir les revoir. Il y a beaucoup d'émotions. Parce que c'était vraiment des bons moments. Donc...
C'est un moment aussi où ça fait remonter les émotions. Hein. C'est précisément un des objectifs du groupe, c'est que voilà, ça puisse être un espace où les émotions sont de nouveau présentes et qu'on peut les accueillir et qu'on peut les travailler ensemble. Là, vous avez des larmes. J'ai envie de dire c'est très bien parce que vous nous faites part d'un souvenir et d'un lien qui est très puissant, qui est très fort. Et ben voilà, il y a de la tristesse, et puis, mais il y a en même temps de la motivation et de l'énergie. Ça vous donne de l'énergie aussi pour aller vers le mieux. Le fait de caresser Jam, parce que là il est vers vous, hein, et, alors il gratte un peu la terre avec sa truffe, mais vous le caressez, il n'a pas bougé. Qu'est-ce que ça vous fait? Le fait que vous puissiez dire tout ça en le caressant,
ça aide beaucoup parce que ben on peut le caresser et ouais, ça aide pas mal, je trouve.
En fait, j'avais un poney, et je l'ai sauvé de la boucherie. Ouais, bah même, genre, parler de ses souvenirs comme ça dans les groupes, des fois, c'est compliqué à gérer. Surtout que, moi, mon poney, il est mort, donc c'est assez compliqué pour moi d'en parler, mais le fait que Jam est là, je trouve que c'est plus facile et que c'est possible, alors que s'il n'était pas là, je trouve que ce serait plus compliqué.
Peut-être c'est des fois un peu plus facile de parler du lien avec un animal que les liens aux humains qui sont autrement plus complexes, mais que ça aide probablement pour aborder cette thématique un peu plus, de manière un peu plus générale. Autrement dit, de comment on fait quand il y a quelqu'un qu'on aime qui disparaît, comment on s'accommode du manque, comment est-ce que le manque peut à un moment donné devenir quand même un élément porteur, un souvenir qui nous tire en avant plutôt qu'il nous rend trop triste. Et il me semble que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est transposable à la thématique générale du lien et de l'attachement.
Moi, j'aimerais juste dire merci à Jam parce que avant de venir, j'étais extrêmement angoissée et je me sentais vraiment pas bien. Et juste le voir, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et je me sens vraiment beaucoup mieux. Et donc, merci à lui.
Et Jam vient vers vous spontanément, vous avez vu ?
Oui.
Pour aujourd'hui, on s'arrête sur ça. On se revoit de toute façon la semaine prochaine dans le groupe de parole. Et puis, ben voilà, c'est bientôt l'heure du repas. Du coup, on va remonter gentiment. Alors là, il n'y a pas de consigne particulière, jusque dans l'unité. Merci à vous toutes.
Je m'appelle Chloé et j'ai 23 ans. Moi, j'ai beaucoup d'anxiété et à chaque fois que je suis avec lui, je ressens... Enfin, c'est comme si ça disparaissait complètement. Le caresser, ça me permet de me focaliser sur lui et pas sur ce qui se passe en moi, sur mes émotions, tout ça, que j'ai de la peine à gérer. Et avec lui, c'est comme si j'oubliais tout ça, en fait.
C'est assez magique.
Ouais, les animaux, ils ont ce pouvoir-là, je trouve. Ils parlent pas, mais ils nous comprennent d'une autre manière que les personnes qui nous entourent. On sort dehors, on voit un peu autre chose que l'hôpital. Ouais, c'est un temps qu'on prend pour nous, et c'est très agréable.
Et comment il est, Jam ?
Il est très affectueux, il est rassurant, il est doux. C'est un golden, il a le poil tout doré, un peu comme mon poney. Et il a un petit gilet quand il travaille. Il a des beaux yeux.
Vous le connaissez depuis combien de temps ?
Ça fait un peu plus de 2 mois que je suis ici.
Et donc, il y a des vrais progrès ?
Oui, oui, complètement.
Okay. Alors, je les détache. Je laisse la laisse à l'extérieur. Puis, comme on a fini de travailler, pour ce matin, je lui enlève la chabraque. Là, et dans le dos. C'est bien, maintenant, repos, loulou. C'est très bien, bravo. C'est fini, c'est repos.
Mélanie Lanz, vous êtes psychologue. C'est vous qui animiez là, tout à l'heure le groupe de parole. Qu'est-ce qu'il amène, ce chien ?
Énormément. Je dirais qu'il amène
vraiment déjà la capacité de se sentir en confiance des patients. Ça réduit la barrière entre le monde des soignants et le monde des patients. Je pense que ça permet une horizontalité un peu plus importante. Donc ça permet d'emblée une confiance. La confiance suffisante pour oser dire des choses de soi. De par le fait qu'il soit doux, tendre, rassurant, il est comme ça un facilitateur, un reconnecteur des patientes avec ce qu'elles peuvent ressentir. Les patientes touchent JAM, donc il y a une sensorialité qui est retrouvée, le thérapeute ne touche pas les patients, donc il y a un contact physique, ça connecte avec des souvenirs, avec un ressenti, ça ancre aussi dans le corps.
Alors les chiens de thérapie, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais en quoi c'est très utile dans le cas de la maladie de l'anorexie ou de la boulimie?
Alors, les maladies des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, il y a une déconnexion entre l'émotion et les pensées, entre les désirs et puis la réalité. Hein. Les patientes souvent disent qu'elles veulent vivre mais sans manger du tout, perçoivent plus leurs limites corporelles, sont des fois dans un déni absolu hein, de la gravité de leur situation. Et puis, JAM, c'est comme si il permettait, on va dire comme ça, un réassemblage des pièces de puzzle, comme si tout d'un coup, l'émotion puis la pensée va ensemble. Par exemple, on a des patientes qui, au début, nous disent que tout va bien, qu'elles ne voient pas ce qu'elles font là, puis qu'elles ne sont pas tellement en souffrance, hein, que finalement, leur poids leur convient, enfin, elles ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent plus aller à l'école ou au travail. Et on a un premier groupe, jamais là, on fait connaissance, ça se fait en douceur, hein, toujours. Mais tout d'un coup, hop, il y a des larmes qui coulent, et puis des patientes nous disent, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai jamais pleuré, ça fait un moment que je ne pleure plus, je ne sais pas ce qui me fait, je ne comprends pas. Et tout d'un coup, il y a un narratif qui arrive sur cette émotion. En fait, je suis très seule, en fait, je ne sais pas pourquoi je me suis murée dans cette chose-là. Donc ça reconnecte, il me semble que ça permet de rassembler des pièces qui sont contenues à l'intérieur d'elles-mêmes de manière beaucoup plus rapide que ce que les interventions thérapeutiques seules permettent. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais ça facilite énormément et ça c'est extrêmement impressionnant. J'avoue que moi je suis surprise chaque semaine hein, de voir l'effet qu'il produit. Ça dépasse de loin ce qu'on avait imaginé. Donc non seulement les patients s'expriment davantage, mais elles parlent aussi beaucoup plus de ce qui les touche réellement, comme si la souffrance qu'il y avait en elles était beaucoup plus accessible. Et j'ai le sentiment très très fort que JAM, de par sa présence, le fait qu'il aille vers elles, c'est comme si les barrières tombaient. Donc comme si les mécanismes de défense, les résistances qui sont normalement là, la maladie du trouble du comportement alimentaire est faite de beaucoup de résistances et de mise à distance hein, du lien, du corps, de l'autre. C'est comme si ça tombait.
Mais ce chien, pour vous, est-ce qu'il sent vraiment quand les patientes sont mal ou qu'elles auraient besoin de parler?
Oui, je pense qu'il perçoit, il est très aux aguets et il perçoit l'émotion.
Vous pourriez faire sans? Aujourd'hui?
Sincèrement, non. Les collègues l'attendent quand on arrive dans les couloirs. Ah, JAM, on me dit bonjour en deuxième maintenant, mais ça maintenant c'est OK pour moi. C'est un co-thérapeute pour moi.
Et est-ce qu'il y a des patientes qui sont venues ici à Saint-Loup, à l'hôpital, et qui poursuivent au fond cette forme de thérapie à l'extérieur, chez elles ou d'une autre façon?
Parfois, certains me disent que ça donne très très envie d'avoir un animal de compagnie. Dans certaines situations, c'est pas possible parce que c'est pas facile d'avoir un chien, faut le dire, hein, ça c'est quand même du travail. Mais j'ai notamment une patiente qui s'est formée, qui a fait les cours de formation pour débutants pour pouvoir promener les chiens à la SPA. Ce qu'elle fait avec sa fille, on avait commencé par une séance conjointe mère-fille dans l'idée que JAM puisse faciliter la communication entre elles deux. Et puis ça a tellement été porteur qu'elles ont ces moments-là privilégiés les deux en baladant un chien à la SPA de temps en temps.
On vient d'arriver à Sainte-Catherine. Donc c'est la SPA et on voit plein de chiens. Donc, il y a des grandes cages. Tiens, là il y en a deux qui sont magnifiques. Je m'appelle Marina Ador. Je suis atteinte d'anorexie boulimie depuis l'âge de mes 13 ans. Donc ça fait une quarantaine d'années maintenant. Je suis suivie aussi au CHUV, à l'ABC, par Madame Lanz.
Nous, on vient avec ma fille pour faire des balades. On fait soit des balades de 30 minutes ou de 45 minutes. Ils vont nous amener un chien.
Est-ce que vous pouvez choisir le chien ?
Non, on ne peut pas choisir. Ils nous amènent. C'est la surprise chaque fois. Donc, c'est ça qui est chouette aussi pour nous. Après, je les prends en photo. Comme ça, on a notre petite panoplie de tous les chiens qu'on a rencontrés. Et puis, nous, on a plutôt des chats calmes parce qu'il y a aussi chiens dynamiques. Donc, ça va être certaines races qui demandent plus d'énergie. Comme on est un peu néophyte quand même, ben, on a plutôt des chiens, des petits ou des calmes.
Alors, on va aller voir quel chien vous attend.
Oui.
Oui.
Bonjour.
Et voici.
Salut, toi.
Je vous présente
salut.
Bruce.
Salut Bruce.
Oh, il est trop beau.
Il a une année.
Une année, ouais. D'accord.
Tout frais.
On voit qu'il est tout jeune, tout agité.
Ouais.
Bon, bah alors on y va.
Merci, bonne balade.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Coucou.
Oh, t'es beau, Bruce. Mais oui, chaque fois que je vois un chien, ça m'émeut. Ça... Je suis triste de me dire qu'il n'a plus de maître.
Tu peux me le décrire, Isalis ?
Alors, il est de taille moyenne. Il est très agité, donc il court un peu partout. Je crois qu'il a vraiment envie de se balader. Oula. Il est dans une couleur un peu beige. Et il a le museau noir. Avec des oreilles un peu beige noir.
Tu sais quelle race c'est ?
Non, j'en ai aucune idée.
Alors, aucune idée. C'est la première fois qu'on a un chien aussi dynamique et jeune hein, aussi. Ouais. Là, on voit qu'il a envie de marcher. Et... Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est de les voir, on va dire... Heureux de sortir, de pouvoir chaque fois voir un chien qui est différent. En tout cas, pour ma part, il y a l'empathie et l'envie de le rendre un petit peu heureux un moment. Et puis, c'est ça aussi qu'on partage avec Isalis à ce moment-là.
Allez, Bruce, viens, hein? On y va. On prend quel chemin?
On va aller un petit peu là.
Dans la forêt.
Quand on avait été dans la forêt, là, on s'était enfoncé dans la gadoue. C'est pour ça que maintenant on met toujours des bottes. Parce que des fois ils nous emmènent dans des endroits un peu plus reculés.
Ouais.
Vous faites ces balades ensemble depuis quand ?
Depuis. En automne, je crois. Genre,
ouais.
Genre vers octobre, il me semble.
On a fait en été la formation, parce qu'il y a une petite formation à faire d'une journée, autant pour les personnes qui veulent adopter un chien que pour les promenades. Et on a commencé par ça, puis après on a fait ponctuellement, ça dépend aussi des horaires d'Isalis.
À chaque fois, j'essaye un peu de regarder quand est-ce qu'on pouvait, une semaine à l'avance du coup, parce que sinon, y avait toutes les places qui étaient prises. Dès que je pouvais, j'essayais de voir un peu les jours, ce que je faisais et du coup, où j'avais du temps libre.
Alors, je t'en dis la boue. En fait, ça s'est tout fait un petit peu en même temps, parce qu'on a rencontré Jam à l'ABC.
En fait, c'est un chien de thérapie. On a déjà fait un peu des promenades avec à l'hôpital de Saint-Loup. C'est un chien qui est là pour que les choses soient plus faciles à expliquer, une présence un peu réconfortante. Avec Jam, c'est plus pour parler, vraiment libérer ses émotions. Avec les chiens d'ici, c'est plus un moment... je sais pas trop en fait comment expliquer, mais c'est vraiment un moment où bah il y a juste le chien qui compte et puis on est bien et on est juste content, voilà.
Jam, il est formé aussi, c'est vraiment un chien de thérapie, donc il sait où il va, il sent les choses, il est attentif à nous. Là, on est avec un chien, c'est l'inverse, c'est plus, chaotique, mais voilà, c'est ce côté plus drôle sur le moment, on est obligé de s'adapter, on peut parler, mais dans deux secondes, il sera peut-être loin, je dois
couper la conversation. Il n'y a pas ce côté vraiment de parler de nos émotions, mais par contre de les vivre sur le moment.
C'est ça, aussi. On continue ?
Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Isalis, de faire ces promenades avec ta maman et un chien ?
C'est un moment où je me sens bien, où je suis un moment de partage un peu avec ma mère, on s'amuse, on rigole, on a le chien à côté qui se balade. Enfin, c'est des moments où on se focalise plus sur le chien et du coup, ça permet d'oublier un peu les soucis pendant un petit moment. C'est ma petite pause de la semaine où je prends du temps pour moi et puis je suis dans un endroit qui fait du bien avec des gens qui font du bien, avec un chien qui fait du bien aussi. Ah, mais t'es le premier qui a compris. Non, pas le micro. Ici. Tu peux aller boire un petit peu d'eau ?
Tu peux ?
Non. T'es doux, dis donc. Oh, t'es trop chou.
Après, il faut le laisser. C'est ça l'embêtant.
On te prend avec nous.
Oui, c'est chaque
on
fois.
On te kidnappe.
Mais là, c'est mon coup de cœur. Hein. Il y en avait un ou deux, on se dit, ok, non, mais là, tout d'un coup, oh là là.
T'es trop chou avec tes grands yeux. Ses oreilles, elles sont super douces.
Pour moi, ce projet, ça a été aussi important parce que je sortais d'une période qui n'était pas facile du point de vue maladie, puis ça, on s'était un peu éloigné. Il y avait quelques tensions et puis là, je me sentais mieux. Et du coup, de pouvoir, accompagner Isalis dans cette envie-là et puis de se retrouver, ça a été très important en tout cas pour moi. Pour qu'elle ait de nouveau un peu confiance en moi. J'avais l'impression de pouvoir réassumer certaines choses que pendant un moment, j'arrivais pas. Et puis, de faire aussi quelque chose qui est assez léger, qui fait une petite parenthèse, comme tu l'as très bien dit, Isalis, pendant une demi-heure où on est ensemble. Puis, ça nous permet d'être liés sur le fait qu'on aime les animaux et qu'on aime les chiens. Et puis, de repartager quelque chose avec Isalis après avoir eu un moment où ça allait très très mal pour ma santé, où ça a créé des conflits plus forts avec Isalis, c'était de lui dire tu peux me refaire confiance sur certaines choses, on peut refaire des choses ensemble. Du coup, c'est notre petit moment, puis c'est un partage qu'on fait les deux.
Et comment c'est au niveau des tensions maintenant entre Isalis et vous ?
Ça va beaucoup mieux. Pour expliquer, c'était des problèmes d'alcool pour moi, donc ça fausse un peu toutes les relations. Et pour Isalis, c'était très pénible. Donc maintenant que j'ai complètement réussi à m'en sortir, je sens qu'en tout cas le dialogue, la confiance, les partages sont plus simples et plus directs. Et aussi l'impression d'avoir repris mon rôle de maman, en fait. C'était un sacré combat pour moi et une réussite, et ça m'a redonné confiance en moi. Et puis c'est vrai que cette aventure, au début moi j'étais là je le fais plutôt pour Isalis, et puis au final j'y trouve vraiment bien mon compte.
Alors, je te pose la question, Isalis, toi tu sens que la relation elle a changé depuis que vous faites ces balades avec le chien?
Oui, elle a changé. Déjà du coup elle a arrêté de boire. On se parle plus, on se dit plus les choses. Alors parfois on peut s'énerver sur des sujets, mais enfin c'est rien de grave, on rigole dessus. C'est vraiment un bon moment et du coup ça change beaucoup les choses.
T'as l'impression d'avoir retrouvé ta maman ?
Oui. Là j'ai 12 ans, je suis plus grande, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. Oui, du coup c'est beaucoup plus facile.
Vacarme.
Et avec toutes les thérapies, les chiens, les balades, tout, ça a fait qu'on a renoué un peu le lien.
Qu'avez-vous pensé de ce reportage intitulé « Du flair pour guérir » et signé Cécile During ? Avez-vous été aidée par un animal dans des moments délicats ? Dites-le nous au 058 134 134 0. Qu'est-ce que la présence d'un chien vous apporte du côté relationnel avec vos proches, du côté de votre santé physique ou mentale ? Notre numéro, c'est le 058 134 134 0.
Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Difélix, Valérie Dantan et Stéphanie Coudray.
Demain, nous allons monter sur l'estrade d'un concours canin.
Ruby a fait beaucoup d'expositions. Il était champion du Luxembourg, champion de Slovénie, champion de Croatie, etc. Je ne sais pas tout. Et puis en Suisse aussi, il a des titres de champion. Sinon, on ne gagne rien d'autre que la gloire, si j'ose dire.
Le cabot de la gloire, ce sera le reportage de demain. Et si vous êtes très pressé d'aller l'écouter, rendez-vous sur le Play RTS, où vous trouvez d'ores et déjà tous les reportages de la semaine. 13h30, c'est l'heure d'Histoire vivante. Profitez bien.
Histoire vivante. Histoire vivante, Anaïs Kien.
Dans cette série d'histoires vivantes, on explore les lieux où la porte se ferme. La prison d'abord, parce que c'est le lieu emblématique de l'enfermement, mais aussi parce que c'est un modèle pour les autres, pour tous ces lieux où la vie s'organise en vase clos. Des camps d'internement administratifs au goulag, en passant par les établissements dédiés aux personnes âgées. Ces espaces de vie si particuliers ont des règles, une organisation dans chaque détail du quotidien. On stocke des corps et des esprits, et on les modèle pour qu'ils soient conformes aux attentes de la maison, ou en tout cas, on tente de le faire.
On nous a volé la dignité humaine.
On ne peut pas laisser une chose pareille sans mémoire.
Vous avez l'impression que vous appartenez à une autre race. On nous a brisé la dent pour que nous attaquions à n'importe quelle institution et à n'importe quel prix.
Ça ne concerne pas 10 personnes, 100 personnes. Ça concerne une vingtaine, voire trentaine de milliers de personnes qui ont subi ces outrages.
Vous ne faites pas partie du reste de la société. Avec vous, on peut faire à la limite ce qu'on veut. Pas avec les autres, mais avec vous, oui.
La prison pour modèle, épisode 3. Enfermé sans être jugé, les internements administratifs en Suisse. De la fin du 19e siècle à 1981, c'était hier, la loi suisse autorisait à enfermer celles et ceux qui ne cadraient pas avec la norme. Pour les filles mères ou les alcooliques, enfreindre le modèle traditionnel n'envoyait pas au tribunal, mais pouvait leur valoir un enfermement à Bellechasse, à Indelbank, à La Valetta, à Mondrisio ou encore à Oettingen. Cette mesure administrative courante a fait l'objet d'un scandale, d'une commission d'enquête et d'un rapport historique publié en 2019 qui chiffre cette manière hors la loi de soigner les maux de la société par la sanction. Alix Heiniger est historienne. Elle a collaboré à cette commission indépendante d'experts sur les internements administratifs en Suisse.
Alors, les internements administratifs en Suisse, ils prennent leur origine dans une histoire assez longue de gestion de la pauvreté, non seulement en Suisse, mais aussi dans les pays d'Europe. Une origine qui remonte, grosso modo, à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, dans ce que certains de mes collègues historiens et historiennes ont appelé le « grand enfermement ». C'est une période où les modifications dans les situations sociales, situations économiques, les possibilités de travail dans l'agriculture ou à l'intérieur des villes font que, pour différentes raisons, toute une partie de la population se retrouve sans attache, sans travail, décide de migrer. Et puis, finalement, ça donne lieu aussi à un accroissement de la pauvreté et à un sentiment dans les villes qu'il y a aussi une augmentation du nombre de mendiants et de vagabonds. Et c'est à cette époque que les élites urbaines décident de mettre en place des nouvelles institutions qu'on appelle en Suisse des maisons des pauvres, des Armenhäuser, des maisons de correction, où là l'idée est d'interner les personnes pour les mettre au travail. Donc on considère que ces personnes mendiantes, vagabondes, doivent leur état à une faiblesse de caractère. Voilà, c'est des personnes qui sont réputées ne pas vouloir travailler. Et donc pour régler le problème, il faut les enfermer et les obliger à se mettre au travail. Un des établissements les plus connus de cette époque, c'est le Rasp Uys d'Amsterdam, qui est fondé en 1596, qui est une maison où on enferme les gens pour leur faire râper une racine, d'où le terme de Rasp Uys, la maison où on râpe, un travail qui est extrêmement pénible, mais qui est censé avoir des vertus rééducatrices sur cette population. Et puis, c'est aussi une manière en Suisse, pour les communes suisses, de rationaliser l'assistance, puisque c'est les communes d'origine qui sont responsables de l'assistance en Suisse, pas les communes de... Donc la commune d'origine, c'est pas la commune où vous êtes né, c'est la commune dont vous êtes bourgeois ou bourgeoise, enfin plutôt bourgeois pour les hommes. Donc vous tirez cette bourgeoisie de naissance, de filiation de votre père. Et donc la commune d'origine, elle est responsable de l'assistance pour les Suisses, et ce d'une manière traditionnelle, mais c'est ancré dans les pratiques à partir de 1681, quand la Diète décide de ça. Et les communes prennent aussi la décision de rationaliser cette assistance en créant des maisons des pauvres où elles vont placer les personnes qui demandent l'aide de la commune. Donc ces personnes, ça peut être des enfants orphelins, ça peut être des femmes veuves avec leurs enfants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être toute une série d'individus qui demandent l'assistance publique, qui demandent l'aide de la commune. Et puis voilà, alors ce système-là se perpétue tout au long de l'époque moderne, et puis au 19e siècle, il est réactualisé sous deux formes. D'abord, les communes décident de mutualiser parfois leurs ressources pour l'assistance en créant des maisons des pauvres, des Armenhäuser un peu plus grandes, ou alors des Armenhäuser un peu plus coercitives, disons pour les gens qui se rebellent, qui sont rétives à l'internement dans des maisons des pauvres. C'est le dispositif de fondation de l'établissement de Wittikon, par exemple, dans le canton de Zurich. C'est aussi l'origine de l'établissement de Hindelbank dans le canton de Berne, qui est créé en 1866 pour l'internement des femmes pauvres qu'il faut mettre au travail. Et la deuxième nouveauté, si vous voulez, entre la deuxième moitié du 19e siècle et la deuxième moitié du 20e siècle, c'est que ces mesures d'internement administratives, elles vont être ancrées dans des lois cantonales, puisqu'en Suisse, l'assistance, c'est une... est considéré comme une compétence, donc c'est les cantons qui organisent l'assistance, mais dans la plupart des cantons, c'est les communes d'origine toujours qui assument cette assistance. Et donc les cantons vont inscrire dans deux types de lois ces dispositifs d'internement administratif. D'abord dans les lois sur l'assistance, on va assez régulièrement, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, trouver dans ces lois sur l'assistance un article qui dit que telle ou telle personne réputée abuser de l'assistance par sa fainéantise, son inconduite, ça c'est des termes qui sont dans les sources, c'est pas mes termes. Ces personnes qui sont réputées abuser de l'assistance doivent subir une mesure de rééducation, d'internement administratif pour leur apprendre à travailler régulièrement, pourvoir elles-mêmes à leurs besoins et quand il s'agit d'hommes aussi aux besoins de leur famille. Donc ça c'est le premier type de loi. Et le deuxième type de loi, c'est les lois sur les auberges ou les lois sur la répression de l'alcoolisme, qui considèrent que l'alcoolisme est une mauvaise habitude qui entraîne des situations de pauvreté et de précarité. Et donc, pour prévenir ces situations de précarité et de pauvreté, on enferme les alcooliques pour leur apprendre à ne plus être alcooliques et à travailler régulièrement à nouveau. Et la thérapie, et là je mets des très gros guillemets, préconisée pour ces alcooliques, entre guillemets de nouveau, c'est le travail au grand air, le plus souvent dans l'agriculture, une nourriture régulière, qui est en général pas une très bonne nourriture en fait, puisque ça reste quand même des établissements qui sont... dont la précarité est le premier facteur d'organisation, si vous voulez. C'est pas des espaces où règne l'opulence, où les gens sont très bien traités, où on les nourrit très bien, Et toutes ces personnes partagent évidemment, on leur a compris pour les personnes qui sont internées selon les articles contenus dans les lois sur l'assistance qu'il s'agit de personnes précarisées, mais pour les alcooliques c'est la même chose. On trouve très peu de membres des classes dirigeantes dans les asiles pour alcooliques.
L'internement administratif, c'est une des dimensions du traitement de la pauvreté. Réformer l'individu pour le replacer dans la société ensuite. Mais il est organisé et vécu comme une sanction.
Pour moi, c'est pas clair que les personnes qui demandent l'assistance à la commune, elles ont immédiatement compris que la conséquence de cette requête serait l'internement dans la maison des pauvres. Ça a été montré, la mesure d'internement dans la maison des pauvres et ensuite la mesure d'internement dans les autres établissements créés au XIXe siècle, c'est aussi une mesure qui a pour objectif une vocation exemplaire. C'est-à-dire que vous pensez bien que une fois qu'il est devenu clair dans l'esprit de la majorité des gens que le risque de demande de l'assistance, c'est l'internement administratif, c'est une mesure qui va drastiquement faire baisser le nombre de candidats et candidates à l'assistance. La mesure a clairement aussi une fonction dissuasive. Mais je pense qu'il faut mettre cette question-là aussi en perspective avec ce régime particulier de l'assistance par la commune d'origine en Suisse qui pose des problèmes de plus en plus sérieux au XIXe siècle, notamment avec l'industrialisation, avec les changements dans les modes de vie, la migration, le fait que beaucoup de gens ne vivent plus dans leur commune d'origine, vraiment une part importante à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. En vérité, la demande d'assistance, non seulement elle entraîne cette possibilité d'internement dans la maison des pauvres, mais c'est surtout, ça concerne surtout les communes de Suisse centrale, les communes suisses alémaniques, le canton de Zurich. Il n'y a pas vraiment de maison des pauvres à Genève. À Genève, ce serait l'hôpital général dans un premier temps, et puis dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'hospice général qui jouerait ce rôle. Mais en fait, la première mesure déjà qui est vécue comme une forme de coercition, c'est le rapatriement. Je vous donne un exemple trouvé par une de mes collègues dans ses archives. Une femme zurichoise, à la fin du XIXe siècle, épouse un homme nidwaldien. Ils ont des enfants, tout se passe bien, jusqu'au jour où monsieur tombe malade et finit par décéder. Elle se retrouve avec deux enfants petits. Difficile de travailler à cette époque pour une femme avec deux petits-enfants. Poussée dans ses derniers retranchements, avant de plus pouvoir nourrir ses enfants, elle décide de demander l'assistance à sa commune d'origine. Mais par le mariage avec le Nidwaldien, elle est devenue elle-même nidwaldienne. Donc elle est devenue ressortissante d'une commune où peut-être elle a même jamais mis les pieds. Le bureau d'assistance de Zurich lui dit « Mais madame, vous êtes nidwaldienne, vous venez de ce village. » Et si le bureau ne la renvoie pas directement, le bureau va lui-même activer le lien avec la commune pour dire « c'est vous qui êtes responsable de l'assistance de madame ». Et elle va être l'objet d'une mesure de rapatriement parce que réputée incapable de gagner sa vie, seule, veuve, avec deux enfants petits. Donc c'est des histoires comme ça aussi, les histoires d'assistance, les histoires de rapatriement, les histoires d'internement administratif.
Décompter les victimes des internements administratifs, c'est compliqué. Les différentes échelles administratives du fédéralisme ne simplifient pas la tâche. Alix Heiniger, historienne, collaboratrice de la commission indépendante d'experts sur les internements administratifs en Suisse.
La commission indépendante d'experts a évalué à 60 000 les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction administrative entre 1930 et 1981. Sachant que ces 60 000 correspondent à une évaluation plutôt basse. Il est extrêmement difficile de se livrer à un recensement exhaustif. Donc, ils ont recensé un peu plus que 640 établissements. Mais c'est des établissements de taille très, très variable. Il y a ces maisons des pauvres dont je parlais, qui enfermaient peut-être quelques dizaines de personnes, en tout cas moins de 100 personnes. D'autres maisons des pauvres avaient une taille plus importante, donc pouvaient interner plus de personnes. Et d'autres établissements comme... Moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur celui de Bellechasse et de Hindelbank, qui sont des prisons aujourd'hui, ont enfermé plusieurs centaines de personnes, voire jusqu'à 700 personnes pour Bellechasse dans les années 40. La majorité étaient des internés administratifs et une plus petite partie étaient des personnes condamnées par des tribunaux. Et cette population tend à décroître dans les années 50, 60, 70, jusqu'en 1981, au moment de la fin de la mesure.
Vous êtes ici depuis longtemps?
Il y a 28 ans que je traîne par là. Oui, je viens tout. N'est-ce pas, cet article 42, là, cette séquestration humaine, ça c'est pour la civilisation, ça. Vous chopez un mois de prison, vous faites 5 ans. Ça c'est. Une fois qu'on est marqué sous la griffe de la police, eh ben, on est foutu. C'est comme j'ai dit à beaucoup de jeunes qui viennent, qui chopent l'article 42, n'est-ce pas? Eh ben, c'est des types perdus. Ah, avec la 42, l'homme est foutu, parce que c'est toujours là. Vous êtes comme moi maintenant, je sors, n'est-ce pas, lundi. Eh bien, je suis 3 années sous surveillance. Je ramasse une cuite, je fous sur la gueule à un, voilà, nous, bon, pour 5 ans. Qu'on condamne, comme j'ai dit, la prison, la réclusion, ça, si on le mérite, c'est juste. Ça, je suis pas contre la justice. Mais c'est internement les administratifs, ça c'est quelque chose. C'est pour ça en Suisse, ils ont peur de lancer la Ligue du droit de l'homme.
L'internement administratif, c'est la sanction des pauvres pendant presque un siècle. Et comme toute décision administrative, on peut la contester. En tout cas, en principe.
Ben, en théorie, oui, parfois, et en réalité, non, pas vraiment. D'abord parce que c'est des personnes qui sont pas très bien outillées pour se battre contre les autorités. Donc il y a déjà pas forcément une projection mentale, enfin pas forcément une représentation d'elles-mêmes comme étant capables de faire ce genre de choses. Et en plus, les voies de recours étaient parfois exclues selon les cantons. Ou alors là, c'était le gouvernement cantonal qui vous avait interné et c'était au gouvernement cantonal auprès du gouvernement cantonal que vous deviez contester votre internement. Par contre, dans les archives, notamment les archives de Bellechasse, on a trouvé pas mal de lettres de gens qui contestent leur internement. Mais en même temps, si nous, on trouve ces lettres dans les dossiers, alors si la personne a écrit au directeur, c'est normal qu'on trouve sa lettre dans son dossier. Mais si elle a écrit au gouvernement cantonal et qu'on trouve sa lettre dans son dossier, ça veut dire que cette lettre n'est jamais arrivée au gouvernement cantonal.
L'expression qui vient en tête, c'est « internement abusif », donc illégal. Mais cette décision en marge de la loi rend sa qualification très compliquée pour celles et ceux qui l'observent et tentent d'en comprendre l'histoire, l'organisation, la logique et les dysfonctionnements.
Au moment où le Conseil fédéral a adopté les lois de réparation, on a considéré que l'internement administratif, bien qu'il était légal, des lois qui aussi avaient fait l'objet de débats à l'intérieur de Parlement, de débats contradictoires, etc. Donc légalement, ces mesures étaient fondées. Mais par ailleurs, elles ont été considérées comme illégitimes, mais en 2014 et en 2016, parce qu'elles étaient abusives dans leur essence même. Il faut quand même rappeler que si l'internement administratif disparaît en Suisse en 1981, c'est pas parce que tout à coup la Suisse a décidé que cette mesure était injuste, c'est parce qu'elle a adhéré au Conseil de l'Europe en 1963 et que pour faire partie du Conseil de l'Europe, elle doit ratifier la Convention européenne des droits de l'homme et que certaines dispositions légales en Suisse doivent être changées pour que le droit suisse soit conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. En particulier, la Suisse doit donner le droit de vote aux femmes, ce qu'elle a toujours pas fait. Et elle doit abolir ces mesures d'internement administratif parce que la Convention européenne des droits de l'homme exige que toute mesure de privation de liberté soit assortie d'une possibilité de recours et qu'elle soit prononcée par le pouvoir judiciaire et pas par une autorité administrative. Et c'est ces contraintes-là qui vont obliger la Suisse en 1981 à abolir le dispositif de l'internement administratif.
Lorsqu'on se penche sur la sociologie des internés, on retrouve des logiques très proches de la démographie carcérale. Les internements administratifs ont une histoire dans laquelle le sexe des internés était décisif.
On trouve une majorité d'hommes, beaucoup moins de femmes, parce que les hommes et les femmes sont internés pour des raisons différentes, puisque dans les représentations sociales et la division des rôles entre les hommes et les femmes à cette époque, la question du travail rémunéré, donc du travail salarié qui va nourrir la famille, entretenir le foyer, est considérée comme étant à la charge de l'homme. C'est les hommes qui vont principalement être pénalisés au moment où ils font pas ce travail, où ils remplissent pas cette fonction-là. Tandis que les femmes vont plutôt être sanctionnées pour des comportements qu'on appellerait immoraux, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir des enfants en dehors des liens du mariage. Voilà. il y a déjà un traitement un peu différent. La question de l'alcoolisme, elle est aussi, elle frappe plutôt les hommes que les femmes. Et il y a une évolution aussi au cours du XXe siècle. Par exemple, dans les années 60 et 70, on va trouver plus de jeunes femmes qui ont eu un enfant en dehors des liens du mariage, mais surtout avant leur majorité, et qui sont sanctionnées pour cette raison-là. D'abord, et dans ces situations-là, il y a des phénomènes d'escalade qu'on trouve parfois dans les parcours. Et notamment, voilà, le cas typique, c'est celui d'une jeune femme qui est soit va être trouvée une fois avec un garçon dans une situation un peu intime, donc on va l'envoyer dans un foyer pour jeunes filles. Et si elle se rebelle, si elle se soumet pas à l'ordre de ce foyer pour jeunes filles, on va lui apprendre à faire la couture, à faire le ménage, à faire du repassage, à cuisiner, enfin toutes ces choses que doivent savoir les jeunes filles qui se destinent à un rôle de maîtresse de maison. Si elle se rebelle, si elle tente de s'enfuir, si elle tente de retrouver son amie, eh bien, elle va être internée dans un établissement plus coercitif et, par exemple, à Indelbank. Où Indelbank, à cette époque, est déjà une prison, où elle va côtoyer des condamnés de droit commun. Et donc, dans les grands établissements, comme Bellechasse ou comme Indelbank, grands établissements qui abritent plusieurs centaines de personnes à certaines époques, il y a un mélange. Enfin, les personnes qui exécutent des sanctions pénales et les personnes qui exécutent des sanctions administratives sont enfermées dans les mêmes établissements, parfois dans des pavillons différents, mais pas toujours.
On a une idée un peu de la façon dont s'organisaient les journées, des obligations des internés administratifs, Alix Heiniger.
La journée était essentiellement structurée par le travail. On travaillait beaucoup dans ces établissements. Le même quotidien que les personnes frappées par des sanctions pénales. Donc, dans les établissements comme Bellechasse, qui est toujours la deuxième plus grande exploitation agricole du pays, les journées étaient rythmées aussi par les saisons. La journée de travail était plus longue en été qu'en hiver. Lever très tôt le matin, travail au champ, travail de maraîchage, soins des bêtes. Voilà, toute la journée, rythmée aussi par les repas. Dans les témoignages qui nous sont parvenus, on a beaucoup de plaintes sur la dureté du travail, sur le manque d'équipement, sur une nourriture qui n'est pas très diversifiée, qui n'est pas très bonne, qui est peu nourrissante. Voilà, pas beaucoup de loisirs non plus, mais quand même un peu de temps libre. À Bellechasse, un moment important de la semaine est aussi la messe le dimanche matin. Donc tout Bellechasse, les employés, leurs familles, les internés, les condamnés, hommes, femmes, le directeur, tout le monde se retrouve dans l'église pour la messe le dimanche matin. À Indelbank, pareil, la journée est rythmée par le travail, une buanderie, un atelier de couture, où sont occupées les femmes toute la journée.
Est-ce qu'on peut parler de travail forcé ?
Alors, c'est une question intéressante, puisque selon la Convention de l'Organisation internationale sur le travail en prison, donc le travail exécuté dans le cadre d'une sanction pénale, n'est pas du travail forcé. Déjà, c'est une question intéressante. Mais comme les internés administratifs ne sont pas enfermés selon une sanction pénale, de fait, c'est du travail forcé, bien sûr. Il y a peut-être un élément aussi qu'il faut rajouter dans cette histoire, c'est que tous ces établissements d'internement administratif n'étaient pas forcément des établissements publics. C'est-à-dire qu'une partie d'entre eux ont été gérés par des privés et aussi ont été gérés par des congrégations de l'Église catholique. Notamment une série d'asiles pour jeunes filles en Suisse alémanique. Elles étaient gérées par des sœurs de la congrégation de Mentingen et les filles allaient travailler dans des usines de textile ou des usines de l'industrie suisse. Il y avait ce couplage entre le travail dans des usines et l'isolement du reste du personnel de l'usine et de la société par les sœurs de Mentingen qui géraient le quotidien de ces jeunes femmes.
Donc c'est vraiment une histoire en soi, ce système-là.
Oui, bien sûr. Mais ça fait partie dans les 640 établissements dont j'ai parlé avant. Il y a à la fois des gros établissements publics comme Indelbank ou comme Bellechasse, mais il y a aussi des petits asiles gérés par des religieuses ou des petits asiles gérés par des privés.
Et donc c'est du travail qui coûte très peu cher aux employeurs, on imagine ?
Oui, bien sûr. C'est la forme la moins coûteuse du travail qu'on puisse trouver. Mais je pense que c'est aussi un élément important à ajouter dans ce tableau d'ensemble, en fait.
S'il était difficile de contester son internement au moment où il frappait, l'abolition de cette pratique en 1981 a ouvert aux victimes la possibilité de se faire entendre, enfin. Mais les entendre a pris du temps. La commission d'enquête a été constituée presque 35 ans plus tard.
Dans les années 30, il y avait déjà des personnes qui contestaient, qui écrivaient des articles, qui dénonçaient ce régime comme injuste et illégitime. Mais en 1981, quand l'internement administratif a été aboli légalement, il n'y a pas eu de reconnaissance de l'injustice commise. Il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu d'indemnité. On est passé à autre chose, en fait. Et pour beaucoup de personnes qui avaient vécu non seulement de l'internement administratif, mais aussi du placement en étant enfant, donc, eh bien, on ne pouvait pas passer à autre chose de cette manière-là aussi facilement, parce que c'était important pour elles qu'on reconnaisse que les mesures qu'elles avaient subies étaient des mesures illégitimes. Et pour beaucoup aussi, elles avaient le sentiment qu'on les avait enfermées à des moments cruciaux de leur existence. Donc au moment où elles auraient pu acquérir une formation. En fait, que ces mesures d'internement, elles avaient eu un impact très important sur leur vie, puisqu'elles les avaient aussi destinées à une existence très précaire, avec peu d'argent. Elles avaient empêché de nouer des liens avec d'autres personnes, les avaient séparées de leur famille, etc. Donc, elles avaient quand même un très gros sentiment d'injustice. Certaines femmes aussi qui avaient subi ces mesures comme jeunes femmes ou comme adolescentes avaient été séparées de leur enfant au moment de leur accouchement. Donc voilà, il y avait un gros sentiment d'injustice. Ces personnes se sont retrouvées, elles ont fondé des associations, elles se sont mises à contester ces mesures, à vouloir faire reconnaître cette injustice. Il y a une femme qui a été extrêmement courageuse dans les années 80 et dans les années 90, qui s'appelait Louisette Bouchard-Molteni, qui est montée sur des grues en ville de Lausanne, qui a suspendu des banderoles sur ces grues pour dénoncer cette injustice et puis faire reconnaître aussi ce qu'elle avait subi et demander des réparations.
Je me pose la question, pour qui est faite la justice en Suisse ?
Et je suis venue à plusieurs reprises, mais je me battrai jusqu'à la fin de mes jours. Et je continuerai à peindre les juges. Je les peins, d'ailleurs, dans mes tableaux, dans certains, je les peins, c'est vrai. Je les caricature, je les ridiculise. Ça me plaît, c'est une espèce de vengeance, de revanche.
Ils avaient aussi parfois des échos dans la presse. Il y a un dossier de l'illustré qui est très fort aussi en lien avec ça. Et en 2014, le Conseil fédéral a décidé de reconnaître cette injustice et de voter une loi de réparation. Et dans cette loi de réparation, il y avait cette reconnaissance officielle et le fait que le gouvernement présentait des excuses, demandait pardon à ces gens pour les mesures qu'elles avaient subies. Donc c'était quelque chose d'assez fort. Et en même temps, la loi, elle prévoyait aussi une indemnité de 25 000 francs pour les personnes qui en faisaient la demande. Alors, 25 000 francs, ça paraît pas beaucoup, en fait, quand on se dit que la plupart de ces personnes étaient retraitées, avaient une petite retraite, une petite AVS, parfois même pas vraiment de deuxième pilier. Ça handicape les relations sociales, parce que quand vous avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez pas inviter quelqu'un chez vous, c'est pas très grand chez vous, vous pouvez pas forcément dépenser de l'argent pour faire un dîner. Les excursions, ça coûte un peu... Enfin, bref, voilà. Elle nous racontait aussi toute cette existence-là... Donc voilà les 25 000 francs. Et l'autre mesure adoptée par le gouvernement à ce moment-là, c'était une enquête historique financée par la Confédération pour faire toute la lumière sur ces dispositifs d'internement administratif. Le troisième élément, et c'est un élément extrêmement important à la fois pour nous, historiens et historiennes, et pour les personnes concernées, c'est que la loi de réparation, elle prévoyait aussi que les dossiers des personnes ne puissent pas être détruits, qui doivent être conservés. Ce qui était un élément extrêmement important aussi pour nous, puisque ça nous a permis de travailler avec ces dossiers et d'avoir l'assurance que ces dossiers ne seraient pas détruits.
Donc ces archives sont protégées aujourd'hui.
Ces archives sont protégées aujourd'hui.
Le rapport de la commission d'enquête sur les internements administratifs est toujours consultable sur le web, avec des documents et des témoignages en bonus. Vous pouvez même télécharger tous les volumes en PDF et souvent en version bilingue ou trilingue. Dans le prochain épisode, quand la prison se révolte. Histoire vivante, c'est Anaïs Quin avec Daniel Zacker à la préparation et Jean-Philippe Zvalen à la réalisation. Tous les épisodes de cette série sont déjà disponibles sur l'application Play RTS. Dans un instant, c'est Lucas Torrent et dit pourquoi sur les adolescents. Mais tout de suite, les infos. Il est 14h sur RTS Première.